Corinne Lepage, bonjour.
Bonjour.
Alors, de 1995 à 1997, vous avez intégré le gouvernement d'Alain Juppé pour occuper le poste de ministre de l'Environnement, poste qui vous tient à cœur. Vous qui, jeune avocate, avez rejoint en 1978 le cabinet d'avocats fondé quelques années plus tôt par Christian Huglot, premier cabinet à l'époque d'avocats dans le droit de l'environnement. Aujourd'hui devenu cabinet Huglot-Lepage, où cette interview est d'ailleurs enregistrée à Paris, signalons-le pour les auditeurs. Alors vous êtes aussi connu, vous êtes fait connaître du grand public lors de l'affaire de la Mococadis, vous avez participé à Génération Écologie dès ses débuts en 89, et vous avez fondé en 87 le parti écologiste CAP21, que vous présidez depuis et que vous avez représenté en 2002, lors de l'élection présidentielle, où vous avez obtenu pour ce parti au premier tour 1,88% des suffrages. Vous ne vous êtes pas présenté en 2007 puisque vous souteniez François Bayrou, que vous avez rejoint au Modem, puis quitté en mai 2010 pour rendre à CAP21 sa liberté après des différends avec François Bayrou. Et enfin, vous avez annoncé en octobre dernier votre candidature à l'élection présidentielle sur le plateau du journal télévisé de TF1. Alors vous êtes crédité actuellement dans les sondages de 1,5%, alors même qu'Eva Joly, autre candidate écologiste, n'en finit pas de descendre dans ces mêmes sondages, crédité qu'elle est pour l'instant entre 2,5 et 3% des intentions de vote. Alors interrogée par un journaliste de Canal+, en ces termes, et Corinne Lepage qui dit que vous désertez la promesse écologique, vous lui dites quoi? Eva Joly s'est fendue d'un mot que Pierre Cambronne n'aurait pas renié, je l'emmerde. Alors d'abord, pour aller très vite, quelle est votre réaction face à ce mot d'Eva Joly? Et ensuite, plus intéressant, pourquoi avez-vous déclaré que, selon vous, Eva Joly désertait la promesse écologique?
Le mot, je ne veux pas du tout entrer dans la bataille des petites phrases et des invectives. Moi, elle ne me fait pas la même chose. Et je la respecte, même si elle ne me respecte pas. Alors, la seule vraie question, c'est certaine la cause de l'écologie? Et ma réponse, c'est non, pour plusieurs raisons. La première n'est pas de sa faute. C'est lié à l'accord vert PS. L'accord vert PS, d'abord, a démontré que les dirigeants verts accordaient finalement plus d'importance à leur poste plus que de défendre leurs convictions. Or, une des raisons d'être de l'écologie, c'est d'avoir une vision de long terme, une vision de responsabilité collective, une vision de dépassement des égoïsmes partisans. Deuxièmement, cet accord, donc, qui a donné une vision vraiment pas très sympathique de l'écologie politique, a rendu inutile sa candidature pour la bonne et simple raison que, puisque la messe est dite avant que d'avoir été chantée, à quoi ça sert? Et troisièmement, cet accord l'a conduite pour exister, à prendre des positions qui n'avaient plus rien à voir avec l'écologie et qui étaient parfois caricaturales de la gauche. Je pense à une fiscalité confiscatoire à 80%, je pense aux propositions communautaristes, je pense aux 32 heures dont on ne sait pas comment elles seraient rémunérées, je pense à des promesses d'augmentation de rémunération dont elle ne dit pas le début du commencement de la manière dont elle les financerait. Tout ça n'est pas très sérieux.
Mais tout ça est trop loin de l'écologie. D'ailleurs, le journal gratuit Métro avait publié un sondage fait par l'IFOP qui était assez étonnant, puisque selon 61% des 923 Français interrogés, eh bien selon eux, vous étiez la personnalité qui incarnait le mieux les idées et les valeurs de l'écologie, devant donc Eva Joly et ses 39%. Alors, satisfaite de ce sondage, et qu'est-ce que vous en retenez?
Les Français me connaissent depuis longtemps. Vous avez rappelé mon parcours, ça fait 35 ans que je me bats pour une écologie responsable, pour une écologie du possible, et qui rend possible ce qui est souhaitable. Eva Joly a une très belle image de juge d'instruction, mais elle n'a jamais rien fait pour l'écologie, et tous les Français le savent. Et par voie de conséquence, elle n'est pas crédible en tant que défenseur de l'écologie qu'elle connaît de surcroît assez mal, et c'est pas de sa faute, parce qu'elle a une connaissance très livresque des choses, pas une connaissance de terrain, qui est celle de quelqu'un qui, comme moi, s'est battu à côté des associations, a présidé des associations et a été ministre.
Alors souvent, quand les médias traditionnels vous interrogent, c'est pour vous demander pourquoi vous vous présentez. Le fait est que vous vous présentez. Alors plutôt que de perdre notre temps et nos 20 minutes ou plus en questions inutiles, regardons dans le détail le programme pour lequel vous présentez. Alors le premier volet de votre programme, qui est consultable sur votre site internet d'ailleurs, il s'intitule « Mettre en œuvre la troisième révolution industrielle ». Vous dites, je vous cite, « Nous vivons aujourd'hui le passage de la deuxième révolution industrielle, civilisation pétronucléaire, c'est-à-dire moteur à combustion associé à l'électricité et au téléphone, à la troisième, convergence entre les énergies renouvelables et les NTIC. » Alors, à l'heure où l'avenir de l'usine de Gandrange cristallise la désindustrialisation de la France, remet en question ceci, l'avenir est à vous lire dans les industries vertes. D'une part, et je vous cite toujours, les objectifs indiqués par le syndicat des énergies renouvelables, comme étant industriellement tout à fait possibles, doivent être atteints. C'est-à-dire passer de 25% d'énergie renouvelable dans la consommation en 2020 à 34% dès 2030.
Donc ça, ça doit être atteint. Aujourd'hui, nous sommes à 15%.
Aujourd'hui, nous sommes à 15%. Et vous continuez en disant, cela représente un investissement de 70 milliards d'euros à répartir entre les entreprises, les consommateurs et les fonds publics. Et d'autre part, dans votre programme, vous proposez un programme appelé Soleil, c'est-à-dire solutions énergiques, énergétiques d'investissement de long terme. Alors, qu'est-ce que c'est exactement que ce programme Soleil ?
C'est un programme qui lie un fonds et une stratégie. Un fonds dédié, c'est-à-dire qui ne peut pas servir à autre chose, dont les fonds sont bloqués pour 30 ans, c'est-à-dire c'est votre génération, qui est assurée par ce fonds de pouvoir se payer la transition énergétique dont elle a besoin. Il n'est pas alimenté par l'impôt. Il est alimenté, enfin tout au moins l'impôt tel qu'on le connaît aujourd'hui, il est alimenté par les enchères de quotas d'émission, par une taxe carbone qui va venir, par de la redistribution du nucléaire, non pas sûreté nucléaire, mais investissement dans de nouveaux réacteurs nucléaires, par ce qui était autrefois des subventions aux hydrocarbures, et par le LDD, le livret de développement. Tout ceci doit donner 8 à 9 milliards l'an, ce qui est tout à fait envisageable. Et ça finance la recherche et le développement, la décentralisation énergétique, le rachat d'entreprises, si nécessaire, qui ont des brevets intéressants, puisque la France a pris malheureusement beaucoup de retard dans ce domaine. Par voie de conséquence, la mise en œuvre immédiatement de cette nouvelle économie. Alors, j'en reviens un instant sur l'acier. Vous avez posé une très bonne question. Ça ne signifie pas qu'il ne faille plus faire d'acier, parce qu'on en a besoin, ne serait-ce que pour des pales.
On ne peut pas juste dire que l'avenir de l'industrie est uniquement dans les industries vertes. Il y aura d'autres industries encore en France.
Bien sûr, bien sûr. Je parle des écotechnologies, qui ne sont pas nécessairement des industries vertes, c'est-à-dire de la transformation des industries conventionnelles. J'ai visité à Vaux-en-Velin, donc pas très loin de Lyon, une entreprise qui a mis en place un système d'abrasion de nettoyage, si vous voulez, de décapage des métaux à base de produits uniquement végétaux. Donc il n'y a aucun produit toxique chimique, c'est que du végétal, c'est du noyau de pêche, c'est de la coque de noix et je ne sais quoi. Ça se fait à basse pression. L'avantage, c'est que ça ne déforme en rien les matériaux et que, par exemple, toute l'aéronautique qui utilise ce produit garde les couvertures qui sont mises sur les matériaux de manière à pouvoir aller dans le grand froid ou dans le grand chaud. Aucune législation des installations classées, parce qu'il n'y a aucun produit toxique, ça marche très bien. C'est de l'écotechnologie sur une industrie on ne peut plus conventionnelle, le décapage des métaux. Voilà. C'est pour vous dire que je ne parle pas uniquement des énergies renouvelables ou des technologies vertes au sens auquel le commun des mortels l'entend. Je veux dire par là que c'est une révolution industrielle que nous allons vivre.
C'est pas que construire des éoliennes pour mettre partout dans les champs.
Non, bien sûr que non. Vous voyez, ça couvre tout. Les domaines. Et en fait, c'est la construction, mon projet est la construction pas par pas d'une société cohérente où il y a de l'activité économique, où l'humain est au cœur du projet. Puisque dans mon programme, il y a 5 thématiques, la France des projets et des idées, je pense en particulier aux jeunes, produire local, l'humain au centre de tout, à vos droits citoyens et une France dans une Europe qui défend ses valeurs et ses droits dans le monde. Voilà. C'est les 5 thématiques majeures.
Les 5 piliers. Ouais.
Les 5 piliers de mon programme qui comportent 69 mesures prioritaires, parce qu'il y en a d'autres qui le sont moins.
C'est effectivement consultable sur votre site internet. Et pour revenir donc sur la première partie, sur le premier volet, vous insistez beaucoup sur la transition énergétique et c'est normal, on l'entend bien, vous voulez construire une France de demain, une France écologique, mais aussi une France qui fournit de l'emploi. Évidemment, quand on parle de transition énergétique, on pense tout de suite à la question qui est au centre de tout, la question du nucléaire. Alors, question simple, êtes-vous pour une sortie nucléaire, définitive ou partielle? Et si oui, sous quelle échéance?
Poser la question du nucléaire, c'est pour moi poser la question de manière négative. Nous avons besoin d'énergie. Le premier objectif, c'est de réduire notre consommation énergétique par la sobriété, par l'efficacité énergétique, ce qui veut dire commencer par la rénovation des bâtiments. La rénovation
et ça, vous proposez un tas de mesures, notamment en matière de transport et de bâtiments.
Voilà. Ça, c'est le premier point, réduire. Je rappelle quand même Mais vous le savez peut-être qu'un ménage français consomme 35% de plus d'électricité qu'un ménage allemand. Donc vous voyez, on a des marges de manœuvre qui sont quand même des marges de progrès qui sont très grandes. Alors, une fois qu'on a dit ça, reste bien entendu un besoin énergétique. Pour moi, la crise climatique et la crise énergétique font un tout. Et il faut sortir en même temps du pétrole et du nucléaire.
C'est intéressant parce que vous êtes presque une des seules à parler de ça, à part peut-être Ségolène Royal qui, pendant la primaire socialiste, avait évoqué l'après-pétrole. Sinon, le débat écologique se concentre sur l'après-nucléaire.
Mais c'est pour ça que je ne veux pas rentrer... C'est pas que je ne veux pas répondre à votre question,
je vais
répondre
à votre question.
Ne vous inquiétez pas, mais je vous explique ma démarche.
Je comprends bien, bien sûr.
Donc, je marche, je dirais, sur deux jambes, qui sont celles, d'une part, de l'efficacité de l'énergie et de la sobriété énergétique, et d'autre part, de la transition énergétique globale, pas seulement sur le nucléaire. Donc, on fait comment ? On fait comment ? Ben, on ne peut pas se passer du nucléaire. Pourquoi ? 76% de notre électricité aujourd'hui. 16% seulement de notre énergie. Et 76% de notre électricité. Donc on le réduit. Mais on va le réduire dans la mesure où on peut le compenser. Sinon ça ne marche pas. C'est pas crédible. Personne ne peut croire ça.
Personne ne peut croire la sortie du nucléaire d'ici 20 ans total proposée par Europe Écologie Les Verts.
20 ans, ça me paraît un peu court. Je pense qu'il faudra un tout petit peu plus. Mais ça dépend de trois critères. Nos efforts en termes de réduction de consommation, nos efforts en termes de croissance d'énergie renouvelable et notre capacité à avoir un parc nucléaire sécure. Parce que tout dépend en réalité du nombre de centrales sécures que nous allons pouvoir avoir dans les années qui viennent. Au départ, nos centrales nucléaires ont été faites pour 30 ans. EDF en a prolongé la durée de vie à 40 ans dans sa comptabilité en 2000 sans rien demander à personne. C'est maintenant seulement que l'autorité de sûreté nucléaire commence à se poser les questions, notamment à côté de Fessenheim. Si on passe à 50 ans, voire plus, on rentre dans quasiment des centrales expérimentales. Donc, trois critères. La réduction.
Donc ça, c'est par rapport à toutes les mesures que vous prenez pour la sobriété et l'efficacité.
Les énergies renouvelables, parce que c'est de nouvelles activités
aussi. Ça, c'est le plan soleil.
Et troisièmement, l'investissement dans la sécurité des centrales nucléaires et la fermeture de toutes celles dont on n'est pas sûr. Et c'est en fonction de ces trois critères qu'on est en capacité de dire combien de temps ça va durer, j'en sais rien.
Donc vous dites... Halte aux chiffres, halte aux annonces, on le fait.
On le fait et on voit, et on fait au mieux. À mon avis, bien sûr, à mon avis, c'est entre 25 ans, je pense, entre 25 et 30 ans. C'est pour ça que le plan soleil, je l'ai prévu sur 30 ans. Et il faudra passer par le gaz. Du reste, le scénario négawatt prévoit un sas par le gaz.
Dans votre programme, vous soulignez la nécessité que cette révolution industrielle, la troisième, celle de l'écologie, passe par l'échelon européen. Et l'Europe de l'énergie... Elle existe déjà.
Pas vraiment.
Il y a quand même déjà des réalisations, mais pour vous, elle est insuffisante en fait.
Je vais vous dire, c'est très compliqué l'Europe de l'énergie, parce que oui, nous avons des infrastructures communes, par exemple pour l'arrivée du gaz. Quand je dis nous n'avons pas d'Europe de l'énergie, c'est que nous n'avons pas de politique commune de l'énergie.
Il y a quand même un plan climat, le plan 2020.
On a un plan climat énergie, oui. 2020, seulement on ne vous dit pas quelle énergie. Parce que les États sont libres de faire l'énergie qu'ils veulent.
Donc il faut une Europe qui soit plus ferme dans ses décisions.
Oui. Je le pense.
Pour l'énergie.
Est-ce que vous croyez vraiment qu'on peut concevoir une Europe, et on parle beaucoup actuellement du couple franco-allemand, dans laquelle l'Allemagne a interdit toutes les centrales nucléaires, ne veut plus d'énergie nucléaire et la France ne connaît que l'énergie nucléaire ? Vous pensez vraiment que ça va marcher en termes d'organisation de la société, en termes de centralisation, décentralisation, en termes de risque ? Est-ce que vous pensez vraiment que l'Allemagne va accepter que Cattenom, qui est à 5 km de la frontière allemande, continue à fonctionner, alors qu'elle ferme toutes ses centrales nucléaires ? Moi, je ne le crois pas un instant. Donc on a besoin d'aller vers des convergences de politique énergétique et on a besoin de très gros investissements.
Top auto nucléaire, et si on allait vers les énergies renouvelables, même en Europe, et si on sortait aussi de la dépendance presque exclusive envers la Russie, qui a contracté l'Union européenne pour sa consommation énergétique, que ce soit de pétrole, mais aussi
de gaz,
surtout, on y revient. Est-ce que vous êtes favorable à cette presque dépendance exclusive qu'a l'Union européenne, ou est-ce que vous êtes favorable à des projets alternatifs comme le projet Nabucco, ou alors l'aide au BTC et au BTE ?
Alors, moi je suis farouchement attachée à l'indépendance. La mienne ? La vôtre, celle de la France et celle de l'Europe. Ça veut dire avoir plusieurs sources d'approvisionnement. Personne ne met tous les œufs dans le même panier. Ou alors, franchement, il n'est pas très raisonnable. Nous n'avons pas de gaz, sauf le gaz de schiste, mais franchement, je crois qu'il vaut mieux oublier. Partant de là, nous sommes obligés d'importer. du gaz. Donc il faut que nous ayons plusieurs sources d'approvisionnement. Et c'est absolument essentiel. Donc la Russie, très bien, mais pas seulement la Russie. D'autres sources.
Alors on rappelle qu'aujourd'hui, 24% de notre gaz vient de la Russie. Par contre, en Finlande, c'est 100% du gaz qui vient de la Russie. Alors, votre programme, on a beaucoup parlé des questions écologiques, c'est normal, vous êtes connu pour ça, mais votre programme, c'est pas que ça.
Vous l'avez
évidemment signalé, et c'est normal, vous présentez à l'élection présidentielle. Alors, on va parcourir d'autres thèmes. Vous soulignez notamment qu'aujourd'hui, 94% des entreprises françaises ont moins de 10 salariés. C'est pourquoi vous voulez mettre en place un plan de soutien aux petites et moyennes entreprises et aux coopératives, et créer des pôles entrepreneurs et un droit à entreprendre. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement ?
Bah écoutez, mon point numéro un dans mon programme, ça s'appelle la France des projets et des idées. Je parle beaucoup des jeunes. Et très franchement, lorsque je regarde la situation qui était celle de ma génération, je suis frappée du mauvais traitement que nous réservons à notre jeunesse. Pas acceptable, sauf qu'on se trouve aujourd'hui dans une situation où nous avons dépensé de telle manière que les États ne peuvent plus apporter aux jeunes générations ce que les générations antérieures ont obtenu. Donc, à minima, c'est de les aider à porter leurs projets. Et à une époque, on se pose tant de questions sur l'ascenseur social, sur les banlieues, sur la situation des jeunes. Je pense qu'il faut comprendre que le salariat n'est pas la seule possibilité et que de monter son propre projet, sa propre entreprise, c'est formidable parce que c'est une réalisation de soi. C'est être fier de soi. C'est être une valeur d'exemple. Sauf que c'est très difficile. D'où l'idée de renforcer les fonds d'amorçage avec tout un système de fléchage de l'épargne dans le détail duquel je n'ai pas le temps d'entrer, mais tout le monde trouvera ça sur mon site internet, et une mesure simple pour les porteurs d'un premier projet. Moi, je propose qu'il y ait un parachute. Pas doré, mais un parachute. C'est-à-dire qu'en cas d'échec d'un premier projet, on puisse avoir droit au chômage, ce qui permettrait d'accepter de courir le risque.
Chômage pendant combien de temps ?
Avoir une situation proche de celle d'un salarié classique. Donc, cette mesure-là permettrait aux jeunes de se lancer, et aux moins jeunes aussi d'ailleurs, sur un premier projet. Je pense que c'est très important. Deuxièmement, vous avez vu que les Qataris ont mis en place un fonds de 400 millions d'euros pour les banlieues. Pour les projets dans les banlieues, projets économiques dans les banlieues. C'est une excellente idée. Ce qui est lamentable, c'est que ce ne soit pas la République qui l'ait fait. Et donc, moi, je propose que nous essayions, peut-être pas à une hauteur aussi élevée, mais que nous essayions de mettre en place un système de cet ordre pour aider au premier projet spécifiquement dans les banlieues. Alors, j'ai un programme qui est très rigoureux sur le plan budgétaire, puisque je propose un retour à l'équilibre en 2017 avec des mesures draconiennes et précises, ce qui n'est pas le cas de mes compétiteurs, sur la réduction des niches fiscales, celles qu'on retire, l'augmentation des recettes publiques, la diminution des dépenses publiques. Mais il y a 15 milliards de dépenses nouvelles. Ces 15 milliards de dépenses nouvelles, elles concernent un chèque solidarité, parce que je supprime un certain nombre de subventions aux hydrocarbures qui vont avoir des incidences sociales, donc je les compense. Il y a 9 milliards qui vont au programme Soleil, parce que c'est la taxe carbone et les enchères de quotas. Et il y a probablement un petit peu d'argent qui reste pour précisément ce fonds pour les banlieues.
Alors, quelque chose qui ne coûte pas du tout d'argent, c'est ce que vous proposez de faire beaucoup de référendums. Alors, on a vu que Nicolas Sarkozy était très intéressé aussi récemment par faire des référendums sur le chômage et l'assistanat des chômeurs notamment. Vous, c'est sur des sujets de société, vous voulez lancer des référendums. Alors, pourquoi d'abord c'est important pour vous le référendum ?
Moi, j'ai pas la vision de Monsieur Sarkozy du référendum. J'ai une vision démocratique. Lui, il a une vision populiste. Autrement dit, pour lui, le référendum, c'est une manière de monter les Français les uns contre les autres et de stigmatiser certains d'entre eux. Pour moi, le référendum, c'est permettre à chacun de décider de sujets éthiques et politiques. Sujets éthiques sur lesquels, finalement, chacun a le droit d'avoir son opinion.
Alors, il n'est
pas
le
droit de gauche, par exemple, pour dans le droit de mourir dans la dignité, par exemple.
Il y a le mariage homosexuel, voilà. Le droit de vote des étrangers aux élections municipales.
Tout ça, c'est des sujets, voilà, pour moi, qui sont des grands sujets d'évolution de la société. Ensuite, il y a des sujets politiques, parce que je ne fais aucune confiance à la classe politique pour faire voter les textes qu'il faut. Je pense au non-cumul des mandats, je pense à la proportionnelle, je pense à la reconnaissance du vote blanc.
Référendum aussi.
Oui, ben oui, parce qu'il n'y a que le peuple qui pourra l'imposer. La classe politique ne l'imposera jamais. Parce que ça ne les intéresse pas.
Justement, vous proposez un référendum, mais on a envie de vous demander votre avis sur tous ces sujets. Alors, on va aller.
Ah, mais je suis pour tout ce que
vous
je propose.
Êtes tous pour tout cela. Mais ouais. Vous les proposez quand même un référendum par éthique, c'est ça?
Pas par éthique. Je dirais par souci d'honnêteté. J'ai pris position très clairement sur le non-cumul des mandats depuis très longtemps. Et j'ajouterai que je veux un non-cumul des mandats dans l'espace et dans le temps et que je me l'applique à moi-même. Je n'ai qu'un mandat, je suis député européen. Et lorsque j'ai été élu municipal, j'étais maire adjoint, même premier adjoint pendant deux mandats, je n'ai pas renouvelé au troisième parce que deux mandats, ça suffit. Donc je me l'applique à moi-même. Il n'y a rien à dire là-dessus. Sauf que je connais la classe politique et je sais que ce sont des textes qui ne seront jamais votés.
Pourquoi ?
Parce que vous avez des partis politiques qui n'en veulent pas et que c'est eux qui votent la loi.
Et d'ailleurs, ça pose une question. Si vous êtes élu en mai, avec quelle majorité gouvernerez-vous ?
Alors là-dessus, je fais aussi une proposition assez originale. D'abord, avant de répondre à votre question, c'est celle d'un gouvernement doublement paritaire. Je ne sais pas si vous avez vu cette proposition.
Effectivement, c'est dans le chapitre égalité. Ouais.
J'ai proposé un gouvernement doublement paritaire, c'est-à-dire paritaire homme-femme, c'est assez classique, quoique...
C'est pas toujours respecté.
C'est le moins qu'on puisse dire. Et paritaire société civile, société politique. Je pense que si on veut des réformes, il faut qu'il y ait dans le gouvernement, comme ministre, c'est-à-dire comme responsable, à la fois des gens de la classe politique et des gens de la société civile. Ça me paraît absolument fondamental.
Qu'est-ce que vous pensez justement quand on voit un ministre qui passe de la justice à l'environnement ou à l'agriculture, en passant après par les affaires étrangères? Ça vous dit quoi, ça? Ça sera dans votre gouvernement, ça,
ce genre de comportement? Moi, je pense qu'on a besoin de gens qui connaissent leur département ministériel, faute de quoi ils ne sont pas ministres, parce que c'est leur administration qui administre pour eux.
D'où le fait de chercher des talents, même dans la société civile.
Absolument. Absolument. Je rappelle du reste que quand j'ai été nommée ministre en 1995, c'était au titre de la société civile. Je n'avais jamais appartenu à aucun parti politique, sauf à Génération Écologique pendant une petite période. Donc Alain Juppé avait eu un peu la même démarche, si je puis dire.
Et alors pour la question de la majorité?
Alors pour la question de la majorité, on a un système aujourd'hui qui est un système en fait présidentiel. Ce qui veut dire que si j'étais élue présidente de la République, je lancerais une étiquette majorité présidentielle dans laquelle pourraient s'inscrire tous ceux qui accepteraient de soutenir mon projet présidentiel.
Et vous avez forcément des envies par rapport à la classe politique actuelle. Vers qui vous iriez plus naturellement?
Je pense que dans cette majorité-là, pourraient rentrer bien sûr les centristes.
Vous êtes un peu issu d'ailleurs. Et vous êtes rapproché de François Bayrou.
Moi je suis une femme du centre. Et François Bayrou n'a pas le monopole du centre. Une partie de la gauche socialiste, une partie des Verts, d'Europe Écologie, la partie non verte d'Europe Écologie, puis une partie de la droite qui a rejoint Nicolas Sarkozy, mais qui n'est pas sarkozyste, je pense à toute une série de gens issus de l'UDF qui ne veulent pas travailler avec François Bayrou, ce qu'on peut comprendre, mais donc il faut qu'ils soient quelque part, parce qu'ils ont cette vision-là de la politique. Mais qui pourraient rentrer dans une majorité. Donc ce serait une manière de faire évidemment très différente. Voilà, vous avez un président de la République, il a été élu sur un programme, il veut mettre ce programme. Qui accepte de soutenir ce programme? Il a le soutien et il devient majorité présidentielle.
Eh bien, on va conclure là-dessus. Merci beaucoup, Corinne Lepage, d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle que donc votre programme est disponible sur votre site internet, il fait 44 pages. C'est assez court à lire. Et il y a d'autres choses que nous n'avons pas eu le temps d'aborder, évidemment. Merci.
Merci à vous.